déchirer la peur. La peur. Faut du cœur et faut du courage. C'est ton corps possible à son âge. Si tu as la force et la foi. C'est pour ça que j'irai là-bas. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux en vie et fière, mais toi tu rêves de partir. Ici tout est joué d'avance et l'on n'y peut rien changer. Tout dépend.
De la paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. Reprise des élections locales dans 9 communes et une région le 2 décembre prochain. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le sociologue Dr Christophe Kwame appelle à un scrutin transparent et apaisé. Après 3 années d'exécution, fin du projet Finances publiques, je participe. 120 femmes des localités de Korogo, Daloa, Bondoukou et Abidjan ont vu leur capacité renforcée pour mieux comprendre et s'impliquer dans la gestion des finances publiques. Une initiative du RIDEF et de la Fondation Friedrich Ebert. Hors de nos frontières au Sénégal, un organe électoral demande de réinscrire Ousmane Sonko sur les listes pour la présidentielle de 2024. De retour du pays de la Teranga, Francis Cassino retrouvera pour la revue des titres de la presse ivoirienne. Et puis l'invité de la rédaction aujourd'hui sera Pulchéri Gbalé, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, se prononcera entre autres sur le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. En fin d'édition, Pulchéri Gbalé sera avec Constant Maïlé. Comme annoncé par la CEI, il y aura reprise le 2 décembre prochain de l'élection municipale dans 9 communes et de l'élection régionale dans la région du Guémont. Le sociologue Séverin Kwame espère que toutes les dispositions seront prises pour le bon déroulement de ces élections. Ceci pour éviter les mêmes raisons ayant conduit le Conseil d'État à juger de leur reprise. Nous l'écoutons.
Le premier enjeu de mon point de vue, c'est que le suffrage des électeurs soit exprimé et respecté. L'autre chose, c'est la capacité de la CEI à organiser des élections qui fassent la part belle à beaucoup plus de convivialité et à moins de tensions. Et puis la troisième des choses, c'est la capacité même des citoyens à participer à un scrutin sans qu'il n'y ait de risque de confrontation.
Lors des élections passées, beaucoup de voix se sont élevées contre la CEI. Qu'est-ce qu'on a pu reprocher à la CEI exactement?
Bon, vous savez, quand on organise des élections, il y a différentes choses. Est-ce qu'on a garanti un environnement qui permette aux électeurs d'exprimer leur voix? Et est-ce que ces voix qui ont été exprimées dans la façon dont on a dépouillé et transmis, ça reflète en fait le désir des électeurs? Je crois que là-dessus, il y a eu beaucoup de voix qui sont élevées pour dire qu'il y a des soupçons de fraude, il y a des soupçons de manipulation des résultats. La récurrence des plaintes laisse entendre qu'il y a quand même du travail à faire. Déjà, le personnel en charge de gérer le scrutin, que dans de nombreux centres de vote, le personnel n'était pas forcément à la hauteur. Il y a eu des cas où même le décompte simple, le calcul des taux de participation, etc., était sujet à caution. L'autre dimension, c'est comment on rassure les uns et les autres sur le fait que les résultats dépouillés, obtenus, soient ceux qui sont transmis et qui soient communiqués. C'est là où parfois aussi il y a beaucoup de suspicions.
Docteur Séverin Kwame, sociologue et enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boeké, joint par Francis Cassi. Et puis, après le réaménagement par Laurent Gbagbo de la direction et du secrétariat général du PPACI, Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, le 24 octobre dernier, il y a eu d'autres nominations le lundi 30 octobre 2023. Pour Sylvain Nguessan, ces initiatives sont à saluer. Toutefois, pour jouer pleinement sa part dans le jeu politique, le directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan exhorte le PPACI à changer d'approche, surtout au niveau de son offre politique.
En principe, c'est une bonne chose. Cela démontre une culture du résultat. À partir du moment où le PPACI a vraiment raté les élections locales, c'est tout à fait normal qu'il y ait des réaménagements pour montrer que le PPACI ne fait pas de la figuration, que le PPACI veut peser davantage dans la règle politique. Là où il y a eu des promotions, on réalise que dans un premier temps, ce sont des cadres qui sont arrivés de l'exil, à savoir M. Katina, M. Boylaï et M. Damana Picasse qui ont été promus, qui sont remplacés cette fois-ci par M. Tiedé, M. Des cadres de l'ex-FPI qui sont restés sur place. C'est une façon de dire que ceux-là maîtrisent mieux le jeu politique, qu'ils sont plus en phase avec l'électorat, le temps nous dira. Sans que le PPACI ne va pas inscrire son projet à long terme, essayer de permettre à chacun de ces cadres de lever la tête. Quand on sait que le nom de M. Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale, tant que le PPACI ne va pas sortir de son discours, voter Gbagbo, tant que le PPACI ne fera pas une nouvelle offre politique aux Ivoiriens sur les divers sujets qui nous préoccupent, la cherté de la vie, l'école, l'éducation, l'employabilité de la jeunesse, la vie en milieu rural, ils vont tourner en rond. C'est comme si le PPACI était resté figé au FPI des 95. C'est pas le nom qu'on veut voter aujourd'hui, c'est un projet de société. Malheureusement, le discours il est assez pauvre politique. Je demande bien s'ils veulent s'inventer, s'ils veulent vraiment du pouvoir.
Docteur Sylvain Nguessan, analyste politique, par ailleurs directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Également dans le fil de l'actualité, la deuxième édition de la conférence annuelle de redévabilité initiée par Civis Côte d'Ivoire a eu lieu le mardi 31 octobre à Abidjan-Cocody, soutenue par le projet Bonne gouvernance de la coopération technique allemande GIZ. Cette rencontre s'est brodée autour du thème « Mobiliser les parties prenantes pour accroître l'impact des audits de la Cour des comptes. On fait le point avec vous, Jean-Claude Mabéa.
Cette conférence annuelle de redévabilité fait suite à un constat au dire de Dr Christophe Kwame, le président exécutif de Civis Côte d'Ivoire.
En 2018, le président de la République avec son gouvernement a créé la Cour des comptes et à ce titre, la Cour des comptes a fonction de publier chaque année des rapports sur la bonne gestion des finances publiques. Malheureusement, ces rapports ne sont pas connus. Donc d'une part, il y a l'article 23 qui nous donne pouvoir de travailler sur ces rapports et donc notre rôle à nous, c'est que chaque année, entre les publication des rapports, nous devons utiliser ces rapports-là, les mastiquer, les vulgariser pour que le citoyen sache qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit ce qui a été fait et ce qui reste à être amélioré.
Docteur Shimon Johan, de la coopération technique allemande GIZ en Côte d'Ivoire, a donné les raisons de leur soutien à cette initiative.
On travaille bien ensemble avec Civis Côte d'Ivoire pour augmenter le dialogue entre la société civile et les représentants étatiques sur les finances publiques.
La Haute Autorité pour la bonne gouvernance dit accorder un intérêt particulier à cet exercice. Dr Traoré Bakary, directeur de cabinet du président de cette institution.
La Cour des comptes publie des rapports dans lesquels il y a certes des constats, mais il y a surtout des recommandations. Et ces recommandations sont extrêmement utiles pour un processus d'amélioration continue de la qualité de la gouvernance du pays, de la qualité de la gestion publique. Donc c'est pour ça que le président Zorobi encourage Civis à continuer dans ce sens-là.
À noter que Civis Côte d'Ivoire entreprendra dans les mois à venir, une grande campagne de sensibilisation et de vulgarisation des rapports d'audit de la Cour des comptes dans certaines capitales régionales du pays.
Clap de fin pour le projet Finances publiques, je participe de la Friedrich Ebert et du RIDEF, réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Le projet s'est exécuté de novembre 2020 à octobre 2023 à Bandoukou, Korogo, Daloa et Abidjan. Dans ces différentes localités, 120 femmes issues de 40 organisations de la société civile ont été outillées sur l'économie et la gestion budgétaire pour une meilleure implication dans la gouvernance des finances publiques. Chantal Ayemou, qui est la présidente du RIDEF, nous fait ici un point sur les réalisations du dit projet.
De plus, ce projet a contribué au renforcement des capacités des organisations de la société civile dite féminine dans les domaines économiques et budgétaires afin de les outiller à suivre, à comprendre et à s'impliquer davantage dans la gestion des finances publiques tant au niveau local, régional que national. Par ailleurs, étant outillées, les bénéficiaires directs se sont érigés en promotrices des mécanismes économiques et budgétaires auprès des populations et ont également mené des plaidoyers auprès des autorités locales, régionales et nationales en charge des finances publiques pour une meilleure intégration des questions liées au genre dans les processus budgétaires. Véritable catalyseur du changement, ce projet a permis une meilleure compréhension des finances publiques par les femmes et leur a permis d'acquérir des connaissances, des compétences et une confiance en soi, déclencheur de leur rôle actif constaté tout au long de la mise en œuvre du projet.
Chantal Ayemou, la présidente du RIDEF, réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Pendant ce temps, la phase pilote du projet dénommé Baraka Fissa, qui littéralement signifie en langue malinké travailler est mieux, a récemment été lancée à Korogo. Objectif, soutenir les jeunes entrepreneurs de Korogo ayant déjà démarré leurs activités sur fonds propres. Les échos avec vous, Marcel Bonny.
Après avoir reçu leur attestation de formation, 100 personnes, dont 50% de femmes et 50% d'hommes, âgés de 18 à 60 ans, bénéficient d'un prêt dans le cadre du projet Baraka Fissa à des conditions énumérées par Gauze Anselme, chef d'agence emploi jeune à Korogo.
Le remboursement des prêts se fait le 10 de chaque mois. Le mode de remboursement à adopter est le versement à échéance régulière sur le compte bancaire de l'ONG ouvert dans une banque de la CAF. La durée maximale du prêt est de 12 mois. Le taux d'intérêt, ici, c'est de l'intérêt à 0,30. Tu as eu 1 million, tu rembourses 1 million.
Des critères validés par les bénéficiaires à travers cet engagement de leur porte-parole, Mobio Renault.
C'est quand même dans le fait que nous, bénéficiaires aujourd'hui, nous apparemment à rembourser pour permettre à nos autres frères, à nos amis, de pouvoir bénéficier aujourd'hui.
Permettre aux autres de profiter du dit projet qui se distingue des autres selon Koulibaly Mamadou Sangafoua, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.
La différence entre ce projet et le projet précédent, c'est que vous devez par vous-même faire un parcours sans l'intervention. Cela démontre de votre volonté, de votre détermination à réussir. Ensuite, Baraka Fissa vient vous aider.
À terme, ce sont 1000 personnes qui bénéficieront du projet Baraka Fissa. Marcel Bonny Korogo, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, la Commission électorale du Sénégal a demandé au ministère de l'Intérieur de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. L'institution a par ailleurs demandé de délivrer à Ousmane Sonko des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024. Apprend l'AFP, Ousmane Sonko a été radié des listes électorales, ce qui l'empêche en l'état de concourir à la présidence, rappelle encore l'AFP. Nous passons tout de suite à la revue des titres de la presse avec vous, Francis Cassi. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Ça boue au PDC hier par rapport à l'élection à sa présidence le 16 décembre prochain, vu que depuis son annonce, l'événement semble occuper le devant de la scène. À en croire la une de vos journaux de ce jeudi qu'il inonde pratiquement. D'abord, ceux qui y voient en pole position Tidiane Thiam, l'un des potentiels candidats, notamment l'héritage titrant ainsi avec sa photo à côté. Succession du président Bélier, PDC RDA, voici ton nouveau président. Et le Bélier y renchérit avec, présidence du PDC RDA, 48 députés sur 65 choisissent Thiam. Mais à cet effet, l'intelligent d'Abidjan semble tempérer avec ce titre. Les parlementaires pour Thiam, pas encore prêts à se dévoiler totalement. Ce que le jour plus confirmerait en ces termes. Élection du président du PDC-RDA, Dikaoué, Bendio et Thiam, tous mal barrés. Avant que le sursaut ne laisse en croire concernant Thiam que ce n'est pas aussi simple que cela n'indique. Présidence du PDC-RDA, il faut sauver le candidat Tidiane Thiam quand l'éligibilité de l'ex-banquier divise. Ce qui alors suscite cette interrogation de le nouveau réveil. Congrès électif du 16 décembre, doit-on encore parler de candidat naturel au PDC-IRDA? Mais pour un autre groupe de tabloïdes, tout cela est un mauvais présage pour l'avenir du PDCIRBA, comme le Patriote avec cette manchette. À 45 jours de son congrès extraordinaire électif, le PDCI se déchire, ainsi que le matin renchérissant. Guerre de succession avec le congrès du 16 décembre, PDCI, Bédié, pas encore enterré et déjà le désordre. Côté FPI, on a une vision optimiste de l'avenir malgré la contre-performance aux élections municipales et régionales. En croix, ici à Kassangaré, son secrétaire général sur notre voie. Nous avons la capacité de rebondir. Au sujet du PPACI, nous apprenons avec le quotidien des soins ivoiriens ceci. Diglo, condamnation de 7 voyous par la justice. Delouba à la solde du Béoulaye en prison. Mais la nouvelle alliance contre-attaque 10 ans. Prétendu malaise au PPACI, le régime RHDP dans l'intox. Quand Gbagbo trouble le sommeil à Ouattara. Enfin, terminons notre revue des titres de ce jour avec cette annonce de Fraternité Matin. Administration pénitentiaire, pourquoi la MACA change de nom? Ce que fait également le sursaut écrivain. Maison d'arrêt de collection d'Abidjan, 43 ans après sa création, pourquoi la MACA change de nom? Les dessous d'une réforme. Merci et bonne lecture de vos journaux.
À vous le merci Francis Cassi, on vous retrouve dans l'édition de 8h. Nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui est Pulchéri Gbalé, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne ce matin, aborde plusieurs sujets, notamment la question du nouveau gouvernement du Premier ministre Robert Begré Mambé et la gouvernance en Côte d'Ivoire. Retrouvons Pulchéri Gbalé, ici interrogé par Constant Maïlé.
Pulchéri Gbalé, présidente de ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce que vous reprochez au nouveau gouvernement du Premier ministre Robert Begré Mambé?
On a retenu trois aspects. Le premier, c'est le fait qu'il soit pléthorique parce que on avait 32 ministres, là on est à 33. Mais en plus de ces 33, comme on l'avait dit dans notre vidéo, il y a 14 ministres gouverneurs qui ont un conflit de compétences avec les préfets de région et les présidents de conseils régionaux, alors qu'ils gèrent des milliards. Mais on a aussi d'autres postes à rang de ministres. On a des ministres des affaires présidentielles. C'est tout ça qui constitue en réalité le nombre de ministres dans ce pays. Donc, nous estimons que c'est pléthorique. La deuxième chose, c'est le fait qu'il y a des attelages qui ne sont pas logiques. Quand on met le ministère des Sports avec le cadre de vie, c'est incohérent puisque le cadre de vie a trait à l'environnement, notamment l'environnement de nos habitations. Et donc, ça devait être logé soit au ministère de l'Environnement, soit au ministère de la Construction, de Logement et de l'Urbanisme, soit au ministère de la salubrité. Ça n'a rien à voir avec les sports, d'autant plus que dans le sport, on a vraiment une multitude de disciplines, sans compter qu'il y a l'environnement des sports même, avec les infrastructures et tout. Et donc, franchement, nous pensons que c'était pas nécessaire, c'est pas logique d'avoir mis le ministère des sports avec le cadre de vie. La troisième chose, c'est la suppression du ministère de la réconciliation. Nous estimons que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés et qu'il y a de grosses problématiques qui ne sont pas encore résolues pour qu'on puisse faire disparaître ce ministère.
Au niveau du nombre des ministres, à quel moment l'on peut parler d'effectifs pléthoriques? À quel nombre?
Il n'y a pas de nombre qui soit standard, mais tout le monde sait qu'en moyenne, une vingtaine de ministres, c'est faisable. Ça se fait dans des pays développés. Ce n'est pas nous qui sommes sous-développés, qui ployons sous le poids de la cherté de la vie, qui allons avoir beaucoup plus de ministres que certains pays. On aurait pu nous limiter à maximum 25 ministres, si c'est possible.
On vous a entendu? Vous avez marqué votre inquiétude pour la suppression du ministère de la Réconciliation nationale. Dites-nous en quoi ce ministère est encore important, voire nécessaire pour la Côte d'Ivoire.
Ce ministère est nécessaire et très important parce que, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de problématiques qui n'ont pas encore été résolues. D'abord, actuellement où nous parlons, il y a encore des Ivoiriens qui sont en exil et même des leaders politiques. Ensuite, il y a les victimes des différentes crises politiques que nous avons connues depuis 2000. Plusieurs n'ont pas obtenu réparation et ne savent même pas à quel sein se vouer. Donc, il y a plusieurs catégories de victimes liées pour différentes crises qui n'ont pas encore obtenu ni justice ni réparation. La troisième chose, c'est que actuellement, il n'y a pas de dialogue politique sincère. Il y a beaucoup de questions importantes qui sont en suspens, qui font qu'on peut affirmer que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. J'en veux pour preuve tous les conflits que nous avons dans les différentes zones du pays, qui sont même des bombes à retardement. Et donc, nous estimons que même si le ministère de la Réconciliation n'a pas travaillé comme il se devait, il n'était pas opportun de supprimer ce ministère. Il fallait tout simplement changer la tête de ce ministère et lui donner les moyens de travailler véritablement à la réconciliation des Ivoiriens.
Vous vous préoccupez de la gouvernance de la Côte d'Ivoire en général, notamment oui. En parlant de postes budgétivores. Alors, oui. Selon vous, comment l'on peut remédier à cela?
C'est une question de volonté politique, tout simplement. Voyez-vous, on a fonctionné dans ce pays avec une Assemblée nationale sans un Sénat. Et jusqu'à présent, je n'ai pas souvenir que le Sénat a rejeté un quelconque projet. Ça veut dire qu'il n'est même pas utile. Nous aurions pu nous contenter de nos députés. On parlait aussi tout à l'heure des ministres-gouverneurs. On ne va pas revenir sur les arguments. Et toutes ces institutions-là gèrent des milliards qui auraient pu servir à renforcer la cohésion sociale, qui auraient pu servir à renforcer les infrastructures sociales de base.
Vous parlez souvent de gouvernement d'ouverture avec l'entrée de l'opposition, mais qu'est-ce que vous faites de l'adage qui dit que le pouvoir doit gouverner et l'opposition doit s'opposer?
Oui, ça c'est un adage. Ça ne veut pas dire qu'on met forcément toute l'opposition, mais ce qu'on dit, c'est que le pays nous appartient à nous tous et chacun a sa pierre à apporter. L'idéal aurait été que la gouvernance se fasse avec tout le monde. Maintenant, quand le pouvoir ne veut pas gouverner avec l'opposition, il faut que quand même ils écoutent aussi les propositions de la société civile pour améliorer leur gouvernance. Alors, on parlera véritablement de gouvernance parce que chaque parti apporterait sa contribution. Sinon, ils ne sont pas obligés, mais au moins qu'ils nous écoutent.
Vous demandez simplement l'écoute.
Oui, bien sûr, la prise en compte. Pas seulement l'écoute, hein, la prise en compte des propositions que nous faisons dans le sens d'améliorer la gouvernance.
Pulcheri Gbale, présidente de ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
À l'instant, Pulcheri Gbale était avec Constant Maïlé. C'est ce qui referme le 7 heures. Donc voici le rappel de l'essentiel. Reprise des élections locales dans 9 communes et une région le 2 décembre prochain. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le sociologue Dr Christophe Kwame appelle à un scrutin transparent et apaisé. Et puis, hors de nos frontières au Sénégal, un organe électoral demande de réinscrire Ousmane Sonko sur les listes pour la présidentielle de 2024. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.